on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Céline Guillaume.
Bonjour et bienvenue à vous, 7 milliards de voisins et de voisines. Voici notre discussion du jour. Les grandes compétitions sportives occasionnent de grands moments de joie, de ferveur et propagent les grandes valeurs universelles portées par le sport. Mais elles s'accompagnent aussi, bien souvent, de grands travaux nécessaires à leur bon déroulement. Partagés entre enthousiasme, scepticisme et opposition, les habitants de Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus pauvres de France, ne voient pas tous du même œil la construction des infrastructures pour les JO 2024 sur leur territoire, tout comme en France. Au Brésil, au Qatar, au Cameroun ou en Chine, le lancement de ces chantiers crée des inquiétudes et soulève de nombreuses questions. Quel impact sur le quotidien, l'emploi? Ces rencontres sportives sont-elles compatibles avec le respect de l'urbanisme et des citadins? Que deviennent ces sites? Peut-on les entretenir et ou les reconvertir? Que devient cet héritage?
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Et nous en parlons avec Pierre-Olaf Schütt. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Gustave Eiffel, spécialiste des politiques publiques liées au sport, membre de l'ORM, l'Observatoire pour la recherche sur les méga-événements qui soufflera bientôt. C'est 2 ans, je crois, d'ailleurs.
C'est ça.
C'est bien ça. Et vous avez coordonné l'essai « Espace et lieux de sport dans l'histoire » aux éditions Presse Universitaire de Reims. Et pour nous apporter aussi son éclairage, Mathieu Mercuriali, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte en urbanisme et docteur en architecture, auteur du livre « Concevoir à grande échelle » aux éditions B42. En votre compagnie, messieurs, on va tenter de comprendre pourquoi l'accueil réservé à l'arrivée de ces grands travaux est parfois mitigé, pourquoi l'après-travaux peut réjouir mais aussi désillusionner, et on va l'entendre sur notre antenne, et comment trouver une certaine harmonie entre intérêt de la compétition et intérêt de la population. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander à tous les deux, à qui profitent les grands travaux? Et là, je vous vois sourire.
Bon, je vais commencer, me lancer un peu dans le débat. Donc, les grands travaux, effectivement, il faut distinguer plusieurs types de travaux, c'est-à-dire qu'il y a des travaux sur des infrastructures sportives, il y a des travaux qui concernent du logement, du résidentiel, et puis il y a des travaux sur les infrastructures de transport. Donc les infrastructures sportives, la candidature de Paris a toujours mis en avant le fait que la plupart des infrastructures étaient déjà disponibles, même si certaines étaient déjà en chantier. Donc la seule infrastructure qui s'ajoute sera celle du bassin pour les activités de natation.
Au Stade de France, près du Stade de France.
Voilà. Donc après, il y a aussi beaucoup d'équipements temporaires dont certains ont été prévus pour être réinvestis dans les territoires, et notamment en Seine-Saint-Denis pour justement augmenter le nombre de bassins de natation. Donc sur certains aspects, ça va profiter à la population a posteriori.
C'est ce qu'on va surveiller de près. Mathieu, oui, qui profitent alors ces grands travaux?
Alors, il faut regarder aussi un peu dans l'histoire, parce que c'est aussi des moments, en fait, dans l'histoire un peu idéologiques. Les Jeux ont aussi aidé, en fait, au développement de certaines villes, de certains pays. Et finalement, comme vous l'avez dit, il y a à la fois les infrastructures sportives qu'on retient, les grands stades, les grands qui ont accueilli les grandes manifestations, mais il y a aussi le développement urbain, qui est, je pense, très important, qui est lié finalement au village des athlètes, au village des médias, qui va être aussi construit pour le 2024. Et finalement, c'est toute cette partie-là qui est peut-être moins spectaculaire, mais qui va permettre de régénérer certains quartiers, comme l'a été pour les Jeux de Londres, où finalement le quartier de Stratford, qui était un quartier assez pauvre, qui a pu être transformé en partie. Donc il y a des côtés positifs, côtés aussi négatifs, mais en tous les cas, ça permet de recréer du tissu et d'être l'opportunité, en fait, de développer.
Barcelone est peut-être aussi un exemple en la matière.
D'une autre manière, finalement, est devenue une ville qui accueille des millions de touristes chaque année et qui est un levier, en fait, pour le développement de cette ville. Et qui, en fait, les Jeux Olympiques sont un temps très court, une vitrine visible depuis le monde entier.
Les voisins, les voisines, on a hâte d'en discuter avec vous. Vous avez un avis sur la question? Vous avez vu votre ville changer à l'approche d'une méga compétition sportive? Vous appréhendez de voir ce type de rencontre arriver près de chez vous? Au contraire, vous aimeriez en accueillir une? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 dès maintenant. C'est tout de suite. C'est aussi notre numéro WhatsApp. Vous nous appelez et on échange en direct. Tout de suite, je vous propose une immersion dans cette période pré-JO 2024 de Paris. On pourrait d'ailleurs presque parler des JO de Seine-Saint-Denis. On vient de le dire, puisque les les grands équipements sportifs se concentreront principalement sur ce territoire du nord-est de la capitale. C'est là-bas que seront construits le village olympique, le village des médias et la fameuse piscine en face du Stade de France. Depuis plus d'un an, des citoyens inquiets d'éventuels dégâts collatéraux se réunissent régulièrement au sein du comité de vigilance des JO 2024. Et notre reporter Inès Edel Garcia, elle s'est rendue à l'un de leurs rassemblements, c'était en octobre dernier. Et elle a notamment rencontré Audrey, habitante de ce département et membre du comité de vigilance.
Le comité de vigilance ne se positionne pas pour ou contre les JO. Ce n'est pas l'objet, en fait. C'est de dire les JO, ils vont arriver. Comment est-ce qu'ils vont bénéficier à la population et ne pas être négative pour elle? Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est effectivement, on a vu l'expulsion du foyer ADEF, on en a beaucoup parlé cet après-midi. C'est cet échangeur autoroutier donc, qui va rajouter de la circulation et de la pollution au nom des Jeux Olympiques. C'est le franchissement urbain Pleyel qui va donc traverser les voies ferrées. Initialement, c'était prévu pour les mobilités active et les piétons. On arrive à un pont à 220 millions d'euros où finalement la voiture sera favorisée, ce qui est quand même à l'opposé des engagements qui sont pris. À Saint-Denis, on a deux autoroutes qui fracturent la ville. On a le plus grand faisceau de voies ferrées d'Europe qui fracture la ville. On a le canal, on a la Seine qui sont plus agréables mais qui coupent également la ville. Et donc la question de retisser la ville pour permettre à tous les quartiers de se connecter, elle est au centre des préoccupations municipales. Mais on ne se saisit pas des Jeux Olympiques pour faire ça, alors qu'on n'aura jamais autant de possibilités financières et techniques pour le faire. Et en fait, on augmente encore ces fractures urbaines.
Le niveau de concertation n'a pas du tout été à la hauteur, selon vous?
C'est plus compliqué que ça, qu'il y a à la fois trop et pas assez de concertation. Trop, parce que les projets étant découpés, il y a énormément de réunions et plus personne n'y va, en fait, à part quelques membres actifs du comité, les habitants n'y vont plus. Mais pas assez, parce que nous, ce qu'on veut, c'est un projet global, un projet qui serve les habitants d'abord et qui soit par ailleurs utile aux Jeux Olympiques, mais pas l'inverse.
Pourtant, la promesse, c'est vraiment justement penser l'héritage des Jeux Olympiques avec une reconversion des sites.
Ça peut être vrai si on regarde par le tout petit bout de la lorgnette. Mais nous, on regarde la ville en entier. Et donc, effectivement, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils mettront toujours en avant, d'ailleurs. Le village, alors on sait déjà la reconversion, ça va devenir des appartements familiaux, blablabla, un quartier, blablabla, blablabla, blablabla. Ouais, mais au milieu de quoi ?
2024, ça peut sembler encore loin, mais pour certains habitants, les effets des Jeux Olympiques se font déjà sentir. À Saint-Ouen, les résidents du foyer de travailleurs migrants ADEF doivent quitter les lieux pour laisser place au chantier du futur village olympique. Boubacar Diallo vient du Mali, il vit au foyer depuis 1993 et il est très préoccupé.
Nous sommes près de 300 résidents officiels et avec d'autres personnes qui habitent avec nous, c'est quasiment 600 personnes. Mais autour de nous, il y a des écoles. Il y a des hôtels, il y a des entreprises, il y a un bâtiment, un grand bâtiment qui abrite des étudiants du CIPMECA et tout le monde doit partir.
Et qu'est-ce qu'on vous propose à la place?
Ils viennent comme s'il y a eu une catastrophe naturelle ou s'il y a eu une urgence absolue pour dire « Ah, on ne peut pas vous reloger dans des bâtiments en dur, on va construire des modulaires ». Les modulaires, c'est vague. On ne nous a même pas précisé quel type de modulaire encore. En tout cas, c'est des préfabriqués. Ils voulaient nous entasser dedans. Et le temps de construire notre future résidence. En fait, nous avons bien démontré que nous ne sommes pas contre les jeux. Voilà, c'est un événement national, voire international, qui peut rapporter beaucoup de bien. Les quartiers sont rénovés, les emplois sont créés. Mais tant que toutes les conditions ne sont pas réunies pour nous reloger dans des conditions dignes, humaines et acceptables, donc on ne partira pas de notre établissement.
Mais le sujet des Jeux Olympiques intéresse du monde et pas seulement les habitants de Seine-Saint-Denis. Il y a aussi quelques curieux. C'est le cas de Thaïs, une étudiante en architecture originaire du Brésil qui vient comparer Rio avec ce qui se passe en région parisienne.
Au Rio, on a une situation assez spéciale. On a une favela qui était complètement expulsée parce qu'elle faisait frontière avec le terrain du Jeux Olympiques. Du coup, on a une situation très catastrophique pour la population, on a un massacre. Et quand je suis arrivée à Paris, qu'il y a un peu plus d'un an, J'ai vu la même situation qui commence à se passer ici. Ils commencent à nettoyer, on va dire à nettoyer. C'est horrible de dire ça, mais c'est ça que ça se fait. Ils commencent à nettoyer tout autour de Paris pour pouvoir accueillir cette Jeux Olympiques. Et là, je me suis dit, on a une comparaison qui est en train de se faire. Et on sait bien qu'est-ce que les Jeux Olympiques ils peuvent faire dans le territoire. Et comme moi, je suis dans l'architecture. Moi, je commence à vouloir comparer ces deux situations, me comparer qu'est-ce que cette situation internationale, que ces Jeux Olympiques puissent faire dans le territoire et comment on peut chercher des alternatives avec les habitants et comment on peut critiquer cet événement.
Alors, les JO ont eu lieu en 2016 à Rio. Aujourd'hui, plusieurs années après, en 2019, quel est le constat, quel est le bilan ?
Parler d'héritage pour les Jeux Olympiques de Rio, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, si vous tapez Village Olympique de Rio sur le Google, vous allez rencontrer des photos d'un complet abandon en fait. C'était prévu, le projet en fait, c'était prévu des équipements démontables qui puissent être transférés pour d'autres zones pour devenir des écoles, mais ce n'était pas fait. Parce qu'en fait, ça a coûté beaucoup et après, pour démonter et pour remonter, ça a coûté beaucoup d'argent qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que tout l'étage des Olympiques, elle est morte, on peut dire comme ça. On a eu tout un territoire expulsé et dévasté par ça. On a eu beaucoup de changements dans le territoire pour ça. On a eu une nouvelle ligne d'un bus automatique qui a été construite, qui a coupé des quartiers. Et aujourd'hui, on rencontre vraiment une ville marcellée par ces Jeux Olympiques. Elle est devenue un terrain vacant dans la ville. Et la ville olympique, elle n'est pas à service de la société.
Pierre-Olaf Schütt, Mathieu Mercuriali, les témoignages qu'on vient d'entendre dépeignent une situation presque cauchemardesque, une augmentation des fractures urbaines, une augmentation de la pollution, l'expulsion des résidents d'un foyer de travailleurs migrants non relogés dans des conditions équivalentes et des procédés comparés à ceux utilisés à Rio en 2016. Doit-on s'alarmer ?
S'alarmer, le mot est peut-être un peu fort. Effectivement, il faut la vigilance, ce comité s'appelle comité de vigilance, c'est, je pense, le bon mot. Effectivement, il faut être vigilant dans la mesure où toutes les grosses opérations urbaines engendrent des effets parfois non escomptés. Aujourd'hui, on sait que Paris a connaissance de ce qui s'est passé dans les autres villes qui ont accueilli les Jeux Olympiques avant elle. Mais elle se prémunit de certains effets. On a beaucoup pris l'exemple de Londres et des problèmes de gentrification du quartier de Stratford. Et du coup, Paris profite de ces enseignements. Après, je pense que Paris pourra éviter certaines dérives, mais vraisemblablement d'autres non prévues.
De quelle façon ? Et justement, quels sont les éléments qui pourraient rassurer les habitants de Seine-Saint-Denis ? On les a entendus très inquiet. On a eu l'expérience du Stade de France, puisque la Seine-Saint-Denis a déjà accueilli de grands événements sportifs. Comment rassurer ses habitants ?
En fait, j'ai trouvé intéressant de dire, il y a des personnes qui disaient de retisser la ville. Je pense que c'est vraiment le point le plus important. Il faut dissocier deux choses. Il y a les infrastructures sportives et après, il y a tout ce qui est les fonctions support, comme le village olympique. Je pense que c'est quand même remis dans un contexte beaucoup plus global, en fait. Je trouve que c'est cette dernière candidature, il y en a eu plusieurs à Paris, les dernières en 2008-2012, où à chaque fois, il y avait la volonté de développer un quartier. Que ce soit même celle de 1992, où on a développé finalement le quartier de Bercy, de 2008 sur Batignolles. Et finalement, c'est des quartiers qui prennent vie. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, il y a d'autres projets qui sont développés. En particulier aussi le projet de transport du Grand Paris Express. Donc finalement, on vient recoudre un certain nombre d'éléments avec cet événement des Jeux Olympiques. Et ça permet de finalement lier tout ça. Sur la question du village olympique, oui, bien sûr, les personnes qui vont être déplacées, il faut qu'elles retrouvent évidemment un lieu pour vivre qui soit décent. C'est une évidence.
Vous utilisez le mot de déplacer et non pas expulser.
Non, je pense qu'il faut déplacer peut-être et de repositionner parce qu'il y a aussi 20% de logements sociaux aussi sur le site, des logements accessibles. Cette transformation va permettre aussi de dépolluer les sols. C'est des anciens sols aujourd'hui qui étaient des anciennes usines. Donc ça permet permet aussi d'avancer, de rendre plus sain, en fait, cet espace.
De leur donner une nouvelle vie.
Une nouvelle vie, avec aussi des matériaux. Il y a vraiment tout un volet développement durable avec une construction en matériaux, vraiment en réutilisation bas carbone, donc vraiment des constructions structurées en bois, qui vont pouvoir être aussi transformées. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la transformation du village des athlètes va être faite de façon très, très simple, juste en déposant certaines cloisons intérieures pour pouvoir le transformer soit en logement étudiant, soit en logement familial.
La fameuse reconversion.
Voilà, donc c'est pensé dès le départ. En fait.
Oui, la vision de départ est importante. Pierre, que devient le Stade de France, vous, le spécialiste de ces grandes infrastructures sportives?
Donc le Stade de France, hein, comme tout le monde sait, il a été construit pour la Coupe du Monde de 98 avec un budget qui, comme souvent dans ce type de projet, dépasse largement l'enveloppe initiale. Depuis, juste après la compétition, on s'est posé la question de savoir si une équipe de sport professionnel voulait l'occuper, ce qui n'a pas été le cas. Et aujourd'hui,
Pour des raisons de coût.
À la fois de coût, mais aussi de choix de positionnement dans la ville. Aujourd'hui, le Stade de France a une activité assez importante, à la fois sportive et culturelle, avec des matchs réguliers des équipes nationales de football ou de rugby, des compétitions de fin de championnat ou de fin de coupe. Il n'en demeure pas moins que c'est un stade qui quand même coûte de l'argent à l'État depuis sa création en termes de fonctionnement et qui aujourd'hui est aussi un peu vieillissant, surtout dans la mesure où on voit apparaître des stades qui ont des couvertures et qui les rendent plus attractifs, notamment pour tous les spectacles culturels. Donc le coût de fonctionnement de ce stade risque d'être aussi de prendre un petit peu ce mal, d'avoir probablement une programmation culturelle qui ne va pas aller en croissant, mais plutôt en décroissant.
Ouais, qui va rencontrer la concurrence.
Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait un projet de faire une couverture sur le Stade de France, donc qui nécessitait des gros investissements. Le choix était fait de faire une rénovation beaucoup plus légère financièrement, mais qui va prolonger ce problème de ce stade qui va effectivement coûter de plus en plus d'argent.
Son potentiel. On va accueillir avec nous Franck à Yaoundé. Bonjour et bienvenue, Franck.
Oui, bonjour, c'est Nicole.
C'est Céline.
Ah oui, Céline, désolé.
Bah, bienvenue toujours. Bonjour. Je ne vous en tiens pas rigueur, vous avez 30 ans donc, et vous êtes au Cameroun. On vous écoute.
Oui, bon, ici au Cameroun, on a fait très gros investissements, des éléphants blancs en tout cas.
Oui.
Donc ce sont des gros investissements pour acquérir la CAN. Bon, la CAN était prévue en 2019, bon, comme vous savez.
Ce sera en 2021.
Il y a eu glissement de date en 2021. Donc ce sont de gros investissements consentis par le gouvernement qui ont été injectés dans plusieurs villes, au nord, au littoral, à Yaoundé, ici. Un grand stade pour le BIA. Mais le problème qui se pose est que, bon, déjà, on a déjà passé d'infrastructures et déjà on a un peu de la peine à les entretenir. Maintenant, quand on ajoute d'autres supplémentaires, bon, moi en tant que simple citoyen, moi je me demande, bon, après, qu'est-ce qu'on va faire? Surtout que, bon, vous savez que, bon, nous, on est des pays un peu, bon, qui n'ont pas assez de moyens. Bon.
Donc vous voulez savoir ce que ces constructions vont devenir, en fait, c'est ça votre question?
Effectivement.
Et qu'on va soumettre à nos spécialistes. Que vont devenir ces constructions? Là, il y a la CAN en 2021, au Cameroun.
Alors, il y a effectivement, enfin, on se réfère toujours aux exemples du passé. Et si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud qui avait organisé la Coupe du Monde de football en 2010, effectivement, le cahier des charges de la FIFA impose un nombre de stades assez conséquent pour organiser cet événement. Et le championnat national de première division n'a pas suffisamment d'équipes qui sont capables de remplir les stades de cette capacité, vraisemblablement, on se retrouve avec, en tout cas c'est le cas pour l'Afrique du Sud, avec des stades qui sont pas suffisamment occupés et qui deviennent une charge de fonctionnement assez importante.
Mathieu ?
Oui, tout à fait. C'est les éléphants blancs, c'est l'idée que finalement, c'est un objet, un animal rare, mais qui coûte cher à entretenir. Et c'est ça, cette double casquette, à la fois sur le stade de Pékin, qui est devenu un monument, en fait. Et il était conçu presque comme un monument, parce qu'on savait à l'avance qu'il y avait peu de compétitions qui pouvaient avoir lieu sur ce site. Donc, c'est un monument qu'on visite. Il y a des milliers chaque année de visiteurs qui viennent le visiter comme une tour Eiffel. Mais à l'inverse, il y a d'autres équipements comme la piscine olympique de Londres, donc conçue par l'architecte Zaha Hadid, qui était pensée en deux temps. Pour les Jeux olympiques, elle a été conçue avec une jauge très importante, temporaire, et finalement on a réduit sa jauge pour devenir une piscine toujours olympique, mais avec moins de place pour les spectateurs, donc qui pouvait être, qui est en termes de maintenance, beaucoup plus simple tous les jours. Donc il y a cette double vision qui est importante sur laquelle il faut réfléchir en tous les cas.
Et peut-être que Franck, on peut peut-être vous dire de garder quand même une lueur d'espoir pour la suite.
Ah, on espère, bon. on espère, parce que quand je regarde, quand on voit ce qui se passe avec les stades du Gabon, après leur CAN, bon, ils sont pratiquement dans la brousse. Mm-hmm. Donc ce sont des investissements
qui ont été
faits. Donc, ça ne laisse pas.
Et c'est pas un exemple isolé.
Voilà.
Merci Franck, très bonne journée à vous. Du côté de Facebook aussi, il y a des messages, il y a de l'enthousiasme et du pessimisme. Rodrigue Ayaoundé également nous dit « Avec un championnat national qui n'intéresse personne, moi Camerounais, je me demande bien à quoi serviront les stades actuellement en chantier après la CAN ». 2021, on vient d'en parler à l'instant. Boudouma, qui est au Tchad. L'accueil des compétitions sportives contribue à l'urbanisation des villes et des pays. Les dirigeants investissent des sommes colossales pour construire des stades, des routes et des hôtels et attirer les touristes. Ça rapporte des millions ou milliards aux États organisateurs. Il y a un intérêt et c'est pourquoi les États se disputent souvent l'accueil de ces compétitions. Là, c'est plutôt positif. Est-ce que véritablement, ça peut rapporter des millions et des milliards ?
Alors, la question de l'impact économique des Jeux Olympiques et des grands événements sportifs est une question très controversée, en fait, chez les économistes. Mm-hmm. Donc, à la fois pour des questions méthodologiques, dans le sens où les gens vont faire un calcul qui va être fondé sur des modèles théoriques différents. Mm-hmm. Et au final, on a souvent des estimations ex ante, donc avant l'événement, qui sont assez optimistes. On a beaucoup aussi d'auteurs qui sont un peu plus critiques et qui font des calculs, notamment ex post, après l'événement, qui sont là, pour le coup, souvent négatives par rapport à l'événement des Jeux.
On a également un message de Brice à Yaoundé. L'avènement de la CAN est un moyen de se remplir les poches. Pour preuve, la construction des stades qui accueilleront cet événement, mais aussi des maisons destinées à la location, sont en train d'être construites. Les commerces et les buvettes fleurissent déjà. Les routes bitumées présagent de lendemains meilleurs, car là où il y a la route, le développement prépare son réveil. C'est plutôt beau quand même. Ça donne en tout cas beaucoup d'espoir. Alors, quels atouts une ville doit-elle présenter pour prétendre accueillir une méga compétition de dimension internationale? Alors, vous faites des politesses.
Non, alors déjà, ce qu'il faut voir en premier, c'est le cahier des charges des institutions sportives internationales qui, déjà, donne un certain nombre de critères en termes notamment de transport, avec les questions des aéroports internationaux qui seront dans ou proches du site, la question des infrastructures sportives, la question des capacités hôtelières. Donc tout ça, c'est déjà des éléments qui sont structurants sur la capacité d'une ville à proposer une candidature.
Le premier aspect positif auquel on pense avec le démarrage de ces grands travaux, c'est l'emploi. Est-ce que c'est réellement une aubaine? Et est-ce que véritablement l'emploi, lui aussi, se développe? Est-ce qu'il y a...
Oui,
de ce côté-là, un levier qui s'active.
C'est-à-dire qu'il y aura des travaux, donc à partir du moment où il y a des travaux, donc c'est des travaux dans le bâtiment, donc il y a des emplois qui vont arriver, et ça va créer, ça va générer un certain nombre d'emplois. Moi, ce que je trouvais aussi intéressant sur lequel revenir, c'est de comparer un peu la candidature de Tokyo, les Jeux de Tokyo qui vont avoir lieu cette année, et les futurs Jeux à Paris, où il y a l'idée de transmettre un héritage, et de se baser en fait sur le passé, comme si avant, on était plutôt sur la question de l'avenir ou en tout cas le progrès, en fait, que ce soit à Barcelone ou à Rio. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'héritage et sur les centres-villes. D'ailleurs, on le voit, il y a les sites à Tokyo ou à Paris, il y a le cœur, le site vraiment au cœur de la ville, et puis les sites un peu excentrés, le site Grand Paris. Et donc, finalement, c'est autour de cet imaginaire de l'héritage et finalement du patrimoine que va se construire l'image de la ville pour le futur et pour accueillir les touristes. Et donc ça, je pense que c'est important. Et à travers ça, c'est la réutilisation d'infrastructures sportives existantes au cœur des villes.
Je reviens à l'emploi, excusez-moi Mathieu, avec cette question. On se doute qu'une fois la fête terminée et tout le monde rentré à la maison, que certains emplois vont disparaître. Est-ce que certains peuvent devenir pérennes ?
Oui, alors ce qu'il faut voir dans l'emploi, effectivement, il y a les questions de l'emploi du bâtiment qui sont plutôt en fait un surcroît d'activité sur les années qui précèdent l'événement et pour lesquelles, en tout cas, la Solideo pour Paris 2024 a exigé des entreprises qu'elles assurent un certain nombre de quotas sur du recrutement local. Ensuite, il y a beaucoup d'emplois qui sont temporaires. Évidemment, c'est un événement. On pense notamment au secteur de la sécurité qui va exiger beaucoup d'emplois au moment de l'événement, mais des emplois qui vont durer sur un mois ou deux mois maximum. Et donc, ces emplois, on peut effectivement avoir une vision où on va avoir vraisemblablement des actions de formation professionnelle en amont des Jeux pour anticiper le besoin de recrutement. Ensuite, un recrutement qui va être massif et vraisemblablement aussi la fin de contrat pour un grand nombre de personnes qui va être presque aussi important. Donc il y aura une petite partie des emplois qui peuvent être pérennisés, mais il y aura vraisemblablement aussi quand même un gain en termes de formation professionnelle, parce que cette anticipation aura permis de former beaucoup de gens.
Qui perdurera. Les personnes auront pu se former sur l'urbanisation de ce territoire. Comment respecte-t-on, comment se font-on dans l'urbanisme local, dans le tissu urbain déjà existant, quand on arrive finalement avec un projet de dimension internationale ?
Alors, c'est un territoire qui a été renouvelé de plusieurs fois, parce que c'est un territoire qui était déjà avant, c'était de l'agriculture. Puis au 19e, il y a eu beaucoup d'industries qui se sont développées jusque dans les années 60-70. Après, il y a eu des vagues aussi de transformation de logements, ce qu'on appelait les grands ensembles, donc plutôt des bars. Et le site qui a été choisi pour le village olympique était... Donc,
là, vous parlez essentiellement sur la Seine-Saint-Denis.
Seine-Saint-Denis. Finalement, le territoire qui a été choisi de village olympique, c'était un ancien site industriel qui est à proximité aussi d'infrastructures comme la future gare du Grand Paris, Pleyel, qui est de l'autre côté des voies, du faisceau de voies de la gare du Nord. Donc il y a aussi un choix stratégique de positionnement qui est à mi-chemin entre le Stade de France et cette gare Pleyel, mais qui sera aussi un site après qui pourra accueillir des bureaux. Donc ça participe au renouvellement en fait des types d'activités sur le site. Donc c'est pas mono-fonctionnel, il n'y aura pas que du logement comme on a pu le créer avec les grands ensembles à un moment donné, mais là dire qu'il y a une mixité en fait à la fois de logement, d'activités, aussi un certain nombre de commerces. Donc c'est presque un urbanisme par, j'aime pas ce mot opportunité, mais en tous les cas, c'est un levier pour développer cet urbanisme dans un plan d'ensemble sur pleine commune, avec un plan qui s'appelle Paris Nord-Est, donc de développement sur l'ensemble urbain, où finalement il y a certains quartiers qui sont développés au fur et à mesure. Et les Jeux Olympiques sont un moyen d'accélérer en fait la transformation de ces sites.
D'un territoire. On revient après ça, Mano Solo consacre en musique et en chanson les Jeux Olympiques.
Ça serait chouette les Jeux Olympiques, tous les athlètes dans la foulée, pour un marathon fantastique à la seule force du mollet. Ça serait chouette les Jeux Olympiques, l'émulation sur la cendrée. Ça serait chouette les Jeux Olympiques, si l'on te tue il y avait l'anti-drapeau, leur petit fanion, couleur kaki, cacadois des frontières. Leur petit drapeau, leur petit fanion, qui claque au vent d'une musique militaire. Ça serait chouette, les souvenez-vous, les n'oubliez pas que la guerre est conne, les recueillements sur tous les trous où les soldats fusillés dorment. Ça serait chouette, les souvenez-vous, les manifestations de paix. Ça serait chouette, les souvenez-vous, si nom de Dieu n'y avait. Le petit drapeau, leur petit fanion, pour cette fois, ricain de préférence. Leur petit drapeau, leur petit fanion, leurs petites étoiles, la grande ours s'en balance. Ça serait chouette d'aller sur la lune, dans le scaphandre de Pierrot. J'y emporterai bien ma plume pour vous écrire quelques mots. Ça serait chouette d'aller sur la lune, en vacances pour mille étés. Ça serait chouette d'aller sur la lune, si l'on tout tue, il y avait leur petit drapeau,
leur petit fanion, couleur kaki, cacadois les frontières. Leur petit drapeau, leur petit fanion, qui claque au vent d'une musique militaire.
Soutien-gorge pour les vents.
Ça serait chouette si tous les drapeaux finissaient un jour droit de lit.
On y ferait l'amour bien au chaud
avec les filles de leur pays. Leur petit drapeau, leur petit fanion, pour cette fois, ricain de préférence. Leur petit drapeau, leur petit fanion, leur petite étoile, la grande ours s'en balance. Leur petit drapeau, leur petit fanion, pour cette fois, ricain de préférence. Leur petit drapeau, leur petit fanion, leurs petites étoiles, la grande ours s'en balance.
Sept milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Bonjour, 7 milliards de voisins, c'est Alion Sec. Moi, je voulais parler à la situation de l'estade Léopold Sédar Senghor, très connu sur le nom de Amitié, inauguré en 1985 par le président Abdou Diouf. Vraiment, depuis lors, les stades n'avaient pas été bien entretenus. Même quand le Sénégal recevait là-bas, vous voyez que vraiment les stades est presque un champ de patates. Ce qui fait que les joueurs qui sont venus de l'international même, qui ont grandi là-bas, ils ne peuvent pas jouer là-bas ou bien ça les amène vraiment des conséquences. On a entendu ces temps-ci que le gouvernement est en train de construire un nouveau stade qui s'appelle Stade Olympique avec une dépense de 150 milliards. Avec cette dépense, on pourrait vraiment trouver autre chose à faire et augmenter les stades qui sont dans les régions, deux ou trois tribunes, ce qui ferait vraiment une affaire.
On vient d'écouter Alioune, qui est sénégalais, qui se trouve à Nouakchott. Bon, là aussi, l'heure n'est pas trop au sourire. Hein. Il est plutôt inquiet de ce qui se passe, de l'entretien des stades. Il a carrément parlé de stades laissés à l'état de champs de patates. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples de ce type à travers le monde ?
Je dirais presque chaque, si on revient sur les Jeux Olympiques, presque chaque site a des infrastructures à abandonner. On pourrait le cas bien sûr d'Athènes et de Rio. Hein, Athènes où il y a 4 sites qui avaient été développés et finalement 3 d'entre eux sont quasiment à l'abandon avec des piscines ou des infrastructures sportives qui sont peu utilisées et parce qu'ils n'ont pas fait le choix de faire des infrastructures temporaires en fait. Donc finalement c'est du dur et finalement c'est des choses qui ne sont pas utilisées parce que ça coûte trop cher à entretenir et finalement qui ne profitent pas aux habitants et qui ne profitent pas aux sportifs aussi du pays. Donc il y a aussi une réflexion, savoir qu'est-ce qu'on construit en dur, qu'est-ce qui va être pérenne et qu'est-ce qui va être fait uniquement pour les Jeux et donc avec un système d'infrastructures provisoires.
J'allais demander, est-ce que ces structures provisoires démontables sont l'avenir ?
Je pense effectivement que ce qui est important aussi dans le commentaire, c'est la question du choix d'investissement public. En fait, aujourd'hui, si on regarde du côté de Paris 2024, on s'aperçoit que tout ce qui est de l'ordre du temporaire relève de l'organisation, du comité d'organisation. Et tout ce qui relève du comité d'organisation est financé à 98% par des financements privés. Donc du coup, les investissements publics sont uniquement sur les infrastructures en dur et pérennes, et donc elles devraient être choisies, en tout cas, comme le dit mon collègue, elles devraient être choisies par rapport aux besoins de la population. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'est-ce qui va véritablement être de l'investissement public, et sur l'investissement public, on est en droit d'avoir des attentes plus fortes sur la pérennité, sur l'usage en dehors du contexte des Jeux de ces infrastructures, de ces équipements.
Oui, on a entendu Alioune déplorer l'utilisation, enfin déplorer que l'argent finalement n'aille pas directement aux besoins de la population et des besoins qui sont parfois importants. On l'a presque abordé tout à l'heure, se pose la question de la gentrification. Je pense que c'est vous, Pierre Olaf Schütte, qui l'avez abordé. Certains quartiers pas franchement bien lotis, sans bourgeoises, entre guillemets, après, lorsqu'arrivent ces grands travaux et ces événements. Et parfois, la population est poussée à partir, puisqu'on voit grimper les prix de l'immobilier. Donc, on a les points positifs, parfois, qui peuvent être notamment la mixité sociale. Mais parfois, certains sont obligés, un petit peu poussés vers la sortie.
Oui, en effet. Donc, le phénomène de gentrification, il a été particulièrement décrié à Londres. Où finalement on a rénové le quartier en se disant que ce serait bien pour les habitants, mais les
plus
habitants
accueillants
qui étaient dans ce quartier à ce moment-là n'ont pas pu rester dans le quartier et ont dû le quitter parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'assumer les loyers qui effectivement ont augmenté significativement. Donc à Paris, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est qu'on est dans un quartier, la zone qui va être construite, c'est une zone qui n'est pas une zone résidentielle. Il y a bien un foyer qui était mentionné dans le reportage tout à l'heure, mais c'est une zone où il y a plutôt des centres de formation, des entreprises. Donc, il n'y a pas forcément de logements qui vont être, encore une fois, mis à part le centre dont il était question, pas forcément beaucoup de logements qui vont être détruits pour être réouverts à la population. Donc, il y aura néanmoins des logements qui seront neufs, avec vraisemblablement des facilités de transport, des côtés très avantageux d'un quartier récent qui répond à des exigences élevées en termes environnementales, etc. Donc il y aura vraisemblablement des loyers élevés à l'issue des Jeux sur cette zone-là, avec néanmoins quand même 20% de logements sociaux qui là seront plus abordables. Et le phénomène de gentrification, il va avoir lieu forcément sur la partie neuve et coûteuse de ce parc de logements. Après, ce qui est important pour moi en tout cas, c'est que les gens qui habitent dans le quartier ne se retrouvent pas délogés. Donc là, le fait que ce ne soit pas une zone résidentielle à la base et qu'il y ait quand même ces 20% de logements sociaux, ce qui représente quand même pas mal de... plusieurs milliers de personnes potentiellement, c'est quand même quelque chose qui peut avoir un effet positif. Après, voilà, d'habitat neuf avec des loyers qui augmentent, on le connaît en fait dans toutes les opérations de rénovation urbaine importantes qui sont déjà en cours ou qui ont déjà eu lieu.
Oui, on a une question qui arrive d'un auditeur qui reste anonyme. Cette politique d'urbanisation pour les JO va-t-elle développer l'usage de la reconnaissance faciale ? C'est technique. En fait, il est resté anonyme parce qu'il nous a posé une colle, c'est ça.
Alors, je peux répondre de manière très générale, mais sans être très précis, parce que je ne saurais pas. En tout cas, l'un des enjeux quand même, c'est que ce quartier soit une vitrine technologique aussi, de l'avancée en matière d'urbanisme. Et donc, le concept de Smart City va connaître peut-être une nouvelle définition, un pas en avant. Mais je ne sais pas exactement quelle forme se prendra cette évolution technologique dans l'aménagement urbain.
Et alors, que deviennent ces sites ? C'est la grande question qu'on a entendue tout au long de ce rendez-vous. Que deviennent ces sites ? L'entretien, la pérennisation, la reconversion. À Paris, ville olympique, la dernière fois, c'était en 1924. Là, 100 ans plus tard, à nouveau. En 1924, il y a eu des sites, des infrastructures construites. Certaines existent toujours, d'autres ont été détruites. Et à travers le monde, les exemples d'infrastructures laissées à l'abandon, on l'a dit tout à l'heure, vraiment ne manquent pas. Pourquoi ces villes n'ont pas réussi à les entretenir ? Est-ce que c'est un manque de volonté ? Est-ce que c'est un manque de moyens ? Ou est-ce que c'est un manque de vision, d'anticipation ?
C'est un ensemble de phénomènes. Je pense qu'il y a à la fois, bien sûr, le coût d'entretien chaque année, à la fois l'entretien, la maintenance de ces sites, les frais de fonctionnement. Est-ce qu'il faut trouver aussi un occupant pour ces sites, qui va développer ces infrastructures. Mais c'est aussi une vision en fait, à plus long terme en fait, de bien la répartition des besoins avec les habitants et aussi les personnes qui viendraient dans ces sites. Donc c'est ça qu'il faut vraiment réfléchir sur l'adéquation entre finalement l'urbanisation et le développement d'une ville ou d'une métropole et les sites d'infrastructures. Mais finalement, sur les derniers jeux, c'est aussi toute la partie, ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire que le village des médias ou le village des athlètes, c'est vraiment là où on va construire des mètres carrés, en tous les cas à Paris, pour les JO 2024. Et c'est là aussi on va recréer des sites pour les habitants, à la fois la création aussi de parcs, c'est-à-dire qu'on va sur, par exemple, le site du village olympique, on y revient. C'est un site aujourd'hui où il n'y a pas grand-chose, en fait. Et c'est, on va créer à la fois du logement dessus, mais on va créer aussi des espaces végétalisés. Avec le changement climatique, il faut aussi des, on a besoin, en fait, d'espaces naturels. Et donc, c'est aussi la création d'un ensemble d'espaces naturels,
espace de vie, de vie,
etc. Et aussi de retisser le territoire avec des ponts et de tous les systèmes de transport. Et c'est peut-être ça aussi l'important, c'est la création de ces infrastructures de mobilité. Urbain. Et finalement, aussi, à Paris, vous avez parlé des Jeux de 1924, mais c'est aussi l'héritage de toutes les expositions universelles, et il y a eu des Jeux aussi en 1900. C'est-à-dire que c'est l'accompagnement, en fait, d'événements comme ça qui vont permettre de laisser une trace, surtout au niveau des infrastructures de mobilité.
On va écouter Arnaud, qui, lui, est à Lomé.
Bonjour les voisins. Pour un pays comme le mien, c'est-à-dire le Gabon, je pense que l'organisation de la CAN a été un flop en tout et pour tout. Je pense que vraiment certains pays devraient s'abstenir. Surtout quand ces pays n'ont pas de réelle culture du sport, quand ces pays sont incapables d'entretenir par exemple les stades après l'événement, quand ces pays n'ont pas pour priorité l'organisation d'un événement de ce genre ou n'ont même pas de championnat digne de ce nom. Et le grand malaise, c'est qu'après l'événement, les stades ne servent plus à rien et sont quasi abandonnés. Ce qui fait qu'en réalité, ces investissements sont faits au détriment des populations qui auraient pu profiter si le gouvernement avait pensé autrement, c'est-à-dire plus dans l'utile que dans l'agréable. Il ne sert à rien, je pense, de montrer et d'attirer des visiteurs chez nous juste parce qu'on a une belle maison alors qu'on meurt de faim. Réglons d'abord nos petits soucis. Assurons-nous que tout va bien avant de se lancer, en fait. Merci, bonne journée.
Pensons plus l'utile que l'agréable. Les mots sont posés.
Effectivement, la question, c'est toujours la question de l'usage. Les grands événements internationaux imposent un usage qui est atypique. Et si cet usage atypique, parce que justement, il faut une grande capacité d'accueil de spectateurs, il faut des infrastructures qui respectent des normes internationales, etc. Si cet usage est atypique et, pour le pays par rapport à sa culture, on va arriver sur ce phénomène d'éléphant blanc, mm-hmm. avec des équipements qui ne vont pas être utilisés. Donc, aujourd'hui, il faut effectivement être capable de limiter les investissements à des infrastructures qu'on est capable de faire vivre. Je pense que l'Euro 2016 est un bon exemple. Il y avait besoin de 10 stades. On a un championnat de première division qui a déjà 20 équipes. Donc c'était assez simple de juste rénover des stades existants.
Le sentiment d'avoir été à un moment donné la ville choisie et élue comme un trophée, une fierté, est-ce qu'on peut faire entrer ce sentiment, Pierre, dans ce que vous appelez l'héritage immatériel, qu'on peut notamment observer chez les habitants de ces villes, ouais.
Oui, effectivement, aujourd'hui, la partie l'héritage intangible est la partie la plus importante dans les villes comme Paris ou comme Los Angeles, qui ont déjà finalement beaucoup d'infrastructures. Et même si le village olympique est une construction importante, ça reste quand même, on va dire, le développement d'une opération urbaine comme on en connaît par ailleurs, en dehors du contexte olympique. Donc là, il y a tous les effets, on va dire, sociaux, culturels, qui accompagnent toutes les actions liées à l'héritage qui sont, dans nos pays, encore plus importantes que les aspects matériels des Jeux.
On va avoir avec nous un auditeur. Non, tout à l'heure, ok, très bien. On le laisse arriver. On poursuit avec. On a parlé de l'héritage et il y a cette reconversion. Là, vraiment, je pense que Mathieu, c'est particulièrement votre parti. À quoi faut-il être attentif pour opérer une bonne reconversion? Et notamment, je pense au logement, par exemple, destiné aux sportifs qui peuvent être réutilisés. Vous nous parliez tout à l'heure de ces fameuses, d'ailleurs j'oublie cloison. Le nom, cloison, voilà. Mais ce ne sont pas les seuls éléments. Comment opérer une bonne reconversion?
Alors, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on arrive à un moment donné dans l'architecture et finalement l'urbanisme de réfléchir sur la flexibilité. Aujourd'hui, on parle de transformation de bureaux en logements et de réfléchir aussi sur des bâtiments qui soient un peu neutres et qui puissent accueillir différents types de programmes dans le futur, parce qu'on ne sait pas comment la ville évolue, mmh. et de ne pas faire des bâtiments qui soient figés dans une seule programmation. Et finalement, là, les différents logements qui vont être pensés pour le village olympique vont être réfléchis avec une hauteur sous plafond, qui permet d'accueillir différents types de programmes, que ce soit des bureaux, des activités, des logements, et on va les concevoir dès le départ pour cette flexibilité. Et finalement, bah, la première usage, ça va être un village, le village d'accueillir les athlètes, et finalement, ils vont être accueillis pendant quelques semaines, et tout de suite après, on va pouvoir les transformer très rapidement, puisque ça va être conçu dès le départ comme ça. Et donc, avec des cloisons, comme un décor, en fait, finalement, on va construit.
Peut bouger.
Et puis, on les enlève, on déplace. Et ça va être modulé suivant les besoins. Soit on va laisser finalement les chambres pour des étudiants. Et si c'est des logements familiaux, on va enlever quelques cloisons pour créer le séjour ou créer une salle de bain en plus. Voilà, mais donc, c'est des travaux minimums et qui ne vont pas toucher à la structure et aux façades des bâtiments.
Et qui ne vont pas engendrer de coûts supplémentaires trop important.
Oui, voilà. Alors... Et peu d'impact aussi écologique. Donc, on ne va pas complètement déshabiller le bâtiment, le retransformer et donc avoir un coût et un impact sur la planète.
Ne va-t-on pas vers un changement de paradigme ? C'est-à-dire qu'à une époque, il fallait pouvoir montrer qu'une ville avait les moyens, avait la prestance nécessaire pour se lancer dans de gros chantiers et multiplier les nouvelles constructions, accueillir ces fameuses compétitions olympiques. Est-ce qu'aujourd'hui, le vent ne souffle pas différemment ? Est-ce qu'une ville n'a pas plutôt intérêt à faire preuve de mesure, de réflexion, vient d'en parler, en anticipant justement les reconversions, les transformations, et voire à rénover des structures existantes. C'est ce qui se fait notamment pour Paris. Est-ce que là, on n'est pas sur un changement de pensée, de fonctionnement ?
Je pense que c'est un vœu pieux, en fait. Parce qu'effectivement...
Si on s'intéresse au Qatar, effectivement...
Non, mais bah, en fait, même après les Jeux de 1900 qui étaient... des jeux entre guillemets ratés, Pierre de Coubertin déjà disait qu'il fallait peut-être faire quelque chose de plus modeste, alors qu'on était loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et inévitablement, en fait, les jeux, on connaît une médiatisation très importante qui amène les villes hôtes, les pays d'accueil à vouloir démontrer des choses, démontrer des innovations technologiques, même si c'est des innovations qui vont être durables, c'est aussi un savoir-faire industriel. Donc il y a un ensemble d'enjeux qui vont amener toujours à une, en tout cas, enfin, pas forcément à une croissance infinie en termes d'investissement, mais en tout cas à des investissements supérieurs à ce qu'on ferait habituellement dans un autre contexte.
Il faut pouvoir dire nous on peut tout de même.
Exactement.
Donc c'est un vœu pieux.
Oui, et c'est un accélérateur en fait, finalement, ne serait-ce qu'aussi pour le Grand Paris Express. Et c'est un moyen d'accélérer aussi, de valoriser les territoires pour certains groupes. Et aussi, c'est faciliter les négociations de projets qui avaient du mal à démarrer ou du mal en tout cas à être développés. Et cette convergence vers une date fatidique fait que ça crée une émulation et un développement économique. Et c'est sûr que, par exemple, les pays veulent démontrer leur capacité à construire des infrastructures, et quelque part aussi c'est un moyen de se vendre auprès
international. Cette dernière question, le respect des citadins passe-t-il d'abord donc par une vision post-compétition dans laquelle les citadins sont pleinement intégrés?
Oui, c'est le discours un peu de Paris 2024 où tout de suite on voit c'est bâtir la ville de demain, c'est un des slogans, et l'héritage 2025. C'est déjà, dès le départ, on pense l'après en fait. C'est-à-dire que les Jeux, c'est une étape, c'est pas l'étape finale, mais c'est une étape pour développer après la ville et lui donner une nouvelle image.
Merci à vous Pierre-Olaf Schutt, Mathieu Mercuriali, merci à vous les voisins, les voisines, et merci l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine De Dianous et Romain Dubrac. Demain, nous parlons du consentement. Avec cette question, le consentement, est-ce une simple question d'âge ? Vous pouvez d'ores et déjà nous répondre et nous envoyer vos messages. Le WhatsApp, je vous le redonne une fois que je l'aurai trouvé, bien évidemment. Le 33 1 84 22 71 71, envoyez-nous vos messages. Dès maintenant, voilà. Ciao, c'était Céline.